Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Françoise Gaspard. Ce soir, pensez le genre.
Bonsoir Françoise Gaspard.
Bonsoir Raphaël Bourgois.
Nous avons évoqué lors de nos deux premiers entretiens votre enfance à Dreux, ville dont vous avez été la maire. On a rappelé l'épisode des élections de 1983, bien connu puisqu'il a marqué en quelque sorte le surgissement électoral du Front National, au moins au niveau local, à la faveur à l'époque d'une alliance avec la droite. Hier, nous avons évoqué votre action militante, féministe. Vous avez, je le rappelle, été parmi les premières à porter le thème de la parité, devenue une loi en France en 2000. Lors des législatives de 1988, vous perdez votre siège de député. Vous décidez alors de reprendre une activité de recherche et d'enseignement. C'est ce que nous allons évoquer ce soir ensemble. Revenons, si vous le voulez bien, d'abord à votre formation intellectuelle. C'est une fois, on a parlé de Sciences Po et de l'ENA, mais vous avez aussi fait des études d'histoire. Vous êtes agrégée d'histoire, Françoise Gaspard. Qu'est-ce qui vous avait attiré d'abord vers cette discipline?
J'étais devenue bonne en histoire en terminale et j'hésitais entre plusieurs formations. Je suis entrée à Sciences Po, j'ai fait des certificats d'histoire à la Sorbonne et en 1968, j'avais accumulé 4 certificats d'histoire et un de géographie qui me permettaient de viser l'agrégation. Mais je n'étais pas encore très très sûre de moi. J'ai eu la chance en 1968 d'être embauchée en quelque sorte par René Raymond comme collaboratrice technique à l'université de Nanterre. Je faisais donc de la recherche pour lui et il se trouve que j'ai été admissible en 1970 à l'agrégation d'histoire. Quand Raymond a appris que j'étais sur les listes d'admissibles, il m'a dit « Vous arrêtez de travailler pour moi, vous préparez l'oral ». Et j'ai donc été reçue à l'agrégation. Et j'ai commencé à ce moment-là une carrière universitaire. J'ai été très vite, tout de suite, embauchée à la Sorbonne pour être chargée de cours en histoire économique. Voilà, j'ai enseigné pendant 2 ou 3 ans et pendant que je préparais une élection cantonale à Dreux en 1973, j'étais sur la route entre Paris et Dreux et j'entends sur France Inter que c'était le dernier jour pour s'inscrire au préconcours de l'ENA. C'était quoi ce préconcours? C'était la possibilité pour des fonctionnaires qui avaient 4 ans dans la fonction publique de passer une épreuve et d'obtenir, s'ils la réussissaient, une année sabbatique pour préparer l'ENA. J'ai fait demi-tour sur la route, je suis allée immédiatement m'inscrire au préconcours où j'ai été reçue et je suis entrée à l'ENA en 1975. Voilà, cette double formation est d'historienne et de haut fonctionnaire.
Et donc, vos premiers amours, en quelque sorte, en histoire, c'est de l'histoire politique, mais à la fin des années 80, quand vous allez intégrer le HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, comme maîtresse de conférence, là, vous changez un petit peu, il s'agit plutôt d'études féministes, d'études de genre. Comment est-ce que vous êtes contactée d'abord par le HESS et quelles recherches vous souhaitez mener à ce moment-là?
En 1986, j'avais été, par surprise, réélu aux élections législatives. Par surprise, parce que je n'étais pas candidate au départ, c'était la proportionnelle départementale à l'époque, et j'avais été candidate au dernier moment parce que les sondages montraient que si je n'étais pas candidate sur la liste, le Front National risquait d'obtenir un siège. J'avais donc accepté d'être candidate, mais avec peu de chances d'être élue. J'ai été élue et j'ai donc rempilé à l'Assemblée nationale pour 2 ans entre 86 et 88 dans l'opposition puisque la droite avait remporté les élections, que Jacques Chirac était Premier ministre. Donc j'avais navigué dans ces années-là, j'avais continué à faire de la recherche parce que je voulais terminé des ouvrages que j'avais commencé sur Maurice Violette. Et En 88, il y avait de nouveau un découpage électoral. La circonscription de Dreux n'était plus gagnable. Personne ne voulait se présenter. Je me suis présentée en étant sûre que je ne serais pas élue, ce qui a été le cas. J'ai fait un bon score, un score un peu inattendu, mais pas suffisant pour pouvoir passer. Se poser donc la question de ce que j'allais faire. J'ai demandé à retourner dans mon administration. Je n'ai pas eu de réponse pendant des mois. Aucun président de tribunal administratif ne souhaitait me prendre. J'ai donc fini par aller voir Lionel Jospin quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale 2 ans plus tard. Et il m'a dit « Pourquoi ne tenterais-tu pas l'entrée à l'école des hautes études ?» Et j'ai donc été élue en 1990 maîtresse de conférence à l'école des hautes études. À ce moment-là, j'ai eu la proposition d'Alain Touraine de me prendre dans son équipe.
Donc le sociologue Alain Touraine.
Sociologue. Donc Touraine lui-même était philosophe de formation. Il acceptait parfaitement d'avoir une historienne qui complétait en quelque sorte son groupe de travail à l'école.
Et donc vous entrez à l'EHESS. Quel est auprès d'Alain Touraine, et à quel moment vous mettez en place votre premier séminaire?
Alors mon premier séminaire va porter sur la question de la nationalité. Et là aussi, il faut remonter à la période 86-88. Quand j'avais été donc élue par surprise en 86, j'avais demandé à être à la commission des affaires étrangères. La gauche était dans l'opposition, c'était un moyen de diversifier aussi ma formation politique. Mais très vite, Pierre Jox, qui était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, m'a demandé de revenir à la commission des lois, parce que avait été déposé par Charles Pasqua un projet de loi sur la nationalité qui remettait en cause les principes d'acquisition de la nationalité, notamment pour les jeunes nés en France, qui devenaient automatiquement français à 18 ans. Il y avait une remise en cause très forte du principe du droit du sol qui était posé. Donc j'avais beaucoup travaillé sur ces questions de droit de la nationalité, et en 1990, quand j'entre à l'école des hautes études, je commence par faire un séminaire sur ces questions de nationalité. Et je découvre en travaillant sur ces questions que la nationalité des femmes et des hommes est une question qui traverse l'histoire du droit de la nationalité. Et progressivement, à partir de 1992-93, je vais essentiellement travailler sur les femmes dans les mouvements sociaux et les mouvements sociaux de femmes. Ça n'a pas été facile d'ailleurs d'imposer ce thème à l'école. Le président de l'époque me dit, vous savez, François, c'est pas bon pour votre carrière de faire quelque chose uniquement sur les femmes, parler des mouvements sociaux, et puis dans votre séminaire, vous pourrez parler des femmes, mais l'affichage femme, à l'époque, était encore considéré comme iconoclaste.
On va voir que ce sera la même chose quelques années plus tard sur la question de l'homosexualité. Absolument. Mais restons un peu sur Absolument. L'histoire des femmes, si vous le voulez bien, Françoise Gaspard. De quelle façon, puisque vous venez de nous dire la question des femmes traverse l'histoire de la nationalité, de quelle façon cette histoire des femmes traverse l'histoire de la nationalité? Qu'est-ce que vous montrez à ce moment-là dans ce séminaire?
Je prends l'exemple d'une loi de 1927 sur la nationalité. On se rend compte que la nationalité des femmes et des hommes, à travers la loi notamment de 1927, n'est pas la même. On décide en 1927, pour qu'il y ait suffisamment de garçons qui puissent faire leur service militaire, que les femmes et les hommes auront la même nationalité, donc leurs enfants, la nationalité française, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc la nationalité des femmes avait toujours été ambiguë, ne suivait pas toujours la nationalité des hommes, la suivait ou pas. Donc il y avait une question qui effectivement m'intéressait.
Alors on l'entend, la recherche que vous menez s'oriente un peu vers vos centres d'intérêt, votre action militante, le féminisme. Est-ce que comment dire, pour vous, ça allait de soi d'être à la fois chercheuse et engagée, d'être une chercheuse engagée en quelque sorte, Françoise Gaspard?
Je ne faisais plus de politique à l'époque. J'étais toujours au PS. Non, ça ne me pose pas de problème. Je comprends mal votre question. Tous les chercheurs, à mon avis, ont un parti pris politique. Ils le mettent dans leur poche lorsqu'ils font leurs enquêtes. Ils regardent la société telle qu'elle est. Ce que je m'efforçais de faire avec mes partenaires, en particulier avec un jeune chercheur avec qui j'ai très vite travaillé, qui est Farhad Khosrokavar. Et nous faisions, par exemple, des études de terrain sur l'érogation des garçons et des filles dans les banlieues. Nous avions obtenu des crédits du ministère de la Recherche en France sur ce sujet. Et il est évident que nos partis pris politiques n'avaient rien à voir avec notre appréhension, notre regard lorsque nous traversions les banlieues sur l'égalité des garçons et des filles.
Oui, nous reparlerons de ces travaux avec Farhad Khosrokavar quand on évoquera dans la dernière émission la question du foulard, du voile. On ne sait jamais très bien comment dire, Françoise Gaspard, mais restons un instant sur cette période. Est-ce que, à ce moment-là, vous lisez beaucoup des historiennes, des philosophes, des sociologues sur cette question, justement, des femmes, un objet qui, comme vous venez de nous dire, n'était pas forcément encore très exploré, mais qui a quand même un certain corpus. On pense à des historiennes comme Michel Perrault, par exemple, qui ont évidemment eu une importance considérable en la matière.
Tout à fait. L'histoire des femmes a débuté dans la suite des années 1972-73 avec dans le sillon du mouvement des femmes. D'abord en histoire et plus lentement en sociologie, qui est venue un petit peu plus tard. Donc, quand j'ai monté ce séminaire en 1992-93, j'ai eu le souci d'inviter des chercheuses, à la fois historiennes et sociologues, pour présenter l'état de leurs travaux. Et nous avons beaucoup exploré aussi la sociologie américaine, qui était en avance sur la nôtre à l'époque.
Alors vous allez forger, puisque quand on fait de la recherche, il est bon de forger des concepts. Vous l'avez déjà évoqué dernièrement dans une précédente émission, le concept de fratriarcat. Est-ce que vous pourriez nous en redonner un peu les tenants, les aboutissants, nous dire comment vous arrivez à ce concept et qu'est-ce qui l'incarne selon vous, Françoise Gaspard?
Oui, c'est venu un peu plus tard, mais je peux quand même en faire la genèse. J'ai travaillé beaucoup à l'époque, aussi bien au niveau des engagements que j'avais. J'étais très demandée par les institutions internationales sur ces questions d'égalité des femmes et des hommes, et en particulier sur l'absence de statistiques qui existait sur les femmes dans la prise de décision, non seulement politique, mais également syndicale, mais également économique à l'époque. Je me souviens être allée à l'INSEE en 92-93 pour recueillir les statistiques sur les femmes dans la prise de décision dans ces différents domaines. Elles n'existaient pas, il y avait des tonnes de statistiques sur la maternité, sur la fécondité, mais pas sur les femmes et le pouvoir. Donc, en montant ces statistiques, j'ai d'ailleurs eu des contrats avec différents ministères français pour élaborer ces statistiques, nous avons pu voir qu'il y avait un retard considérable des femmes dans les différents domaines de la prise de décision.
Et donc, ce concept de fratriarcat, il insiste sur le fait que la décision politique, le pouvoir, il est partagé entre ses frères, en quelque sorte, donc les hommes.
Et surtout, sur la difficulté des hommes à accepter la présence des femmes dans les lieux de décision. C'est une vieille affaire et qui se poursuit. On a le sentiment, lorsque les femmes arrivent en nombre dans des instances de décision, que les hommes se sentent menacés et qui mettent en œuvre un certain nombre de moyens pour éviter que les femmes ne montent dans la hiérarchie.
C'était le sens notamment de votre ouvrage qu'on a déjà évoqué, Au pouvoir citoyenne, publié en 92. Et donc dans cet ouvrage, le sous-titre, remplacé dans la devise française, liberté, égalité, fraternité, remplacé fraternité par parité. Et donc il fallait faire tomber ce fraternité de manière un peu symbolique aussi, Françoise Gaspard.
Oui, la fraternité, c'est un mot intéressant dont il faut là aussi refaire l'histoire. Le terme dans la devise de la République apparaît en 1848, au moment où le suffrage devient universel, mais uniquement universel masculin. Donc la fraternité porte bien son nom, c'est l'affaire des frères et non pas forcément des sœurs.
Vous nous avez dit déjà l'importance, selon vous, pour les femmes d'avoir des figures auxquelles se référer. Est-ce qu'on pourrait parler un peu d'Olympe de Gouges, puisque vous avez été parmi celles qui, à la fin des années 80, début des années 90, ont fait remonter cette figure importante de l'histoire de France, de l'histoire de la Révolution française et surtout de l'histoire politique des femmes?
Bien sûr, Olympe de Gouges est une figure qui avait été oubliée, qui... au début de la Révolution, avait dit dans sa déclaration des droits de la femme que la femme pouvait monter à l'échafaud, il fallait aussi qu'elle monte à la tribune. Donc il y a des ancêtres des droits des femmes très loin dans l'histoire, et en particulier avec Olympe de Gouges.
Françoise Gaspard, vous êtes donc dans ce contexte universitaire du début des années 90. Est-ce que vous retrouvez ce même problème de fratriarcat à l'université, une forme de domination masculine, comme l'appellera Pierre Bourdieu dans cette décennie?
Oui, bien sûr. Je ne sais plus quel était le pourcentage de femmes à l'école à l'époque, mais il était infime. Et on voyait des candidatures lorsqu'il y avait des élections pour les maîtres de conférences ou pour les directeurs d'études. On voyait beaucoup de candidatures féminines, mais peu d'élus.
Alors j'évoquais Pierre Bourdieu, on lui a beaucoup reproché, peut-être parce qu'on l'a pas très bien lu, une approche, comment dire, déterministe de la société, d'approcher les individus comme étant agis, sans agir. Or vous, tout votre travail, Françoise Gaspard, il va insister sur la nécessité justement de ne pas opposer les déterminismes à la capacité de changer, l'agency, comme on dit en sociologie, dans ce terme anglo-saxon. Comment est-ce que vous arrivez à ménager justement cette question des déterminismes? Voilà. L'histoire des femmes montre dans sa construction historique qu'elles sont placées d'une certaine façon dans la société et empêchées, par exemple, d'accéder au pouvoir, et en même temps d'arriver à trouver les moyens d'agir justement et de faire exploser un petit peu ce carcan.
Eh bien, en introduisant précisément le concept de genre. Des historiens et des sociologues montrent, d'abord aux États-Unis et puis plus lentement en France, dans la foulée justement de l'histoire des femmes au départ, qu'on ne peut pas parler uniquement des femmes, qu'on doit parler des rapports sociaux de sexe, des rapports entre les femmes et les hommes, des rapports des femmes et des hommes. Et lorsqu'on se situe dans une perspective historique, on voit que ces rapports ont évolué dans le temps. Et en particulier que quelque part à partir du tournant du 17-18e siècle, il y a eu une naturalisation des femmes, donc le concept de déterminisme qui entrait en jeu. Les femmes avaient une nature et les hommes étaient en quelque sorte la nature dominante. Donc c'est en sortant de cette idée de nature, en montrant la complexité et l'évolution des rapports sociaux de sexe, qu'on pouvait effectivement avancer et sortir d'une vision uniquement de la biologie.
Alors ces études de genre, ces gender studies, on les a redécouvertes en quelque sorte récemment, en tout cas pour le grand public, à l'occasion notamment des débats autour de l'enseignement, de cette fameuse abécédaire de l'égalité. Mais revenons un petit peu dans les années 90, est-ce que c'est un concept que vous importez des États-Unis, vous vient en lisant John Scott, Judith Butler, ou est-ce que vous le développez de manière un peu indépendante et vous allez vous retrouver sur cette question-là?
Je ne suis pas seule à traiter de cette question. Très vite, la question de ne pas s'enfermer dans uniquement une histoire des femmes ou une sociologie des femmes, mais de prendre en considération les rapports sociaux de sexe émerge dans les études sur les femmes et qu'on appelle bientôt effectivement les études de genre, les gender studies. C'est vrai que ce sont des Américaines, je pense notamment à Joan Scott pour l'histoire, qui introduit l'importance heuristique du genre pour comprendre l'évolution de l'histoire des femmes et des hommes. Donc il y a effectivement un développement, mais il faut noter aussi qu'il y a une résistance en France, y compris chez les sociologues, pour adopter ce concept. Beaucoup de sociologues au départ préfèrent parler de relations sociales de sexe plutôt que de genre. Mais enfin, le terme s'est rapidement imposé, au risque parfois de confondre genre et femme. Donc il faut toujours rétablir ce concept dans sa dynamique.
Est-ce que cette réticence, elle tient pas aussi à la dimension très transdisciplinaire des études de genre? On sait que l'historienne Joan Scott s'inspire beaucoup du philosophe Michel Foucault. On sait que ce sont des études qui demandent une approche sociologique, une approche historique, une approche philosophique. Et c'est vrai qu'à l'université française, c'est moins vrai de l'EHESS, mais elle aime bien les disciplines.
Tout à fait. Nous avons eu des problèmes en raison notamment de la rigidité, de la fermeture des disciplines sur elles-mêmes, avec d'ailleurs une dimension dont on parle peu souvent, c'est le fait que en France, les études de droit sont complètement séparées des études de sciences humaines, et que le droit a tardé, plus que d'autres, à introduire cette notion de genre.
C'est intéressant, et on en reparlera, je pense, quand vous faites tout votre travail international, justement sur le droit des femmes à l'international. Mais avançons un petit peu. Est-ce que vous retrouvez finalement cette question du rapport des sexes, la nécessité de penser les individus aussi dans les carcans ou dans la construction sociale de leurs identités de genre, de leurs identités sexuelles? Est-ce que c'est ce qui vous mène aussi, avec Didier Rébon, à mettre en place, à la fin des années 90, un séminaire sur la question de l'homosexualité, Françoise Gaspard?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès le milieu des années 90, beaucoup d'enseignants m'envoient leurs étudiants qui travaillent sur les homosexualités, en pensant justement qu'en raison de notre approche sur le genre, il serait possible de trouver dans mon séminaire un accueil pour les étudiants qui travaillent sur ces questions. Ce qui m'a conduit à demander en 1998 à Didier Héribon d'ouvrir avec moi un séminaire à l'école sur la sociologie des homosexualités. Ce qui a provoqué encore plus de réticence que le séminaire sur les femmes dans les mouvements sociaux et les mouvements sociaux de femmes, au point même qu'un député, le député communiste Maxime Grémetz, a posé une question au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur de l'époque pour s'interroger sur la raison de ce séminaire, la présence dans ce séminaire de Didier Héribon, qui à l'époque n'était pas un universitaire. Donc il y a eu vraiment des réticences. Quand le séminaire s'est ouvert à l'automne de 1998, on nous a donné la plus petite salle de l'école. Il pouvait tenir quinzaine de personnes et il y avait entre 40 et 50 personnes à la porte qui voulaient entrer. Donc il a fallu que nous ayons une plus grande salle et ce séminaire a eu un important succès. Et là aussi, de très nombreux enseignants, notamment américains, mais pas seulement, sont venus parler à ce séminaire qui a permis à de nombreux étudiants de trouver des réponses et une stimulation dans leurs recherches.
Et vous poursuivez entre 2006 et 2009, puisque vous dispensez un cours à Sciences Po sur homosexualité et politique. Pourquoi est-ce qu'il fallait passer de la sociologie...
Avec Bruno Perrault. Parce que ce thème également manquait à l'époque à Sciences Po, que Bruno Perrot, qui avait suivi mon séminaire pendant plusieurs années, a souhaité que j'ouvre ce séminaire avec lui, qui là aussi a été un succès.
Et justement, puisque vous parlez de Bruno Perrot, dans Les défis de la République, ce livre qu'il a dirigé à partir de vos travaux, Françoise Gaspard, avec l'historienne Joanne Scott, il y a cette phrase, une bonne candidate homosexuelle est une candidate dans le placard. Donc sur cette question du rapport entre homosexualité et politique, qu'est-ce que vous dites, vous qui avez été justement plus que candidate, députée, maire, comment est-ce que vous percevez cette phrase de ce livre ?
C'est vrai sans doute pour un certain nombre de candidates, ça n'a pas été mon cas.
Vous n'en avez pas souffert ?
Non.
Voilà qui est dit. Ça pose tout de même une question qui est importante et qu'on abordera plus tard, c'est la question de la représentation. Parce qu'en fait, avec la question des femmes, la question de l'homosexualité, se pose à la République la question de qui représente évidemment la nation. Or, vous l'avez dit, c'est d'abord les hommes, un certain type d'hommes. Aujourd'hui, on attend de la République qu'elle soit représentée par la diversité. Et donc, ça heurte un petit peu à un autre concept important, qui est celui d'universalisme. Comment est-ce que, dans vos recherches, vous avez justement, vous êtes parvenu à réconcilier un petit peu ces différentes dimensions du problème ?
Je crois que ce qui m'intéressait, c'était précisément de combattre toutes les formes d'exclusion, de comprendre pourquoi il y avait de l'exclusion et d'essayer de penser l'introduction des exclus dans la République.
Françoise Gaspard, donc ces recherches que vous menez en France vous amènent aussi de l'autre côté de l'Atlantique, puisque vous avez été invité plusieurs fois aux États-Unis, à Berkeley notamment, je crois aussi au Canada, à Montréal. Qu'est-ce que vous découvrez là-bas ? Est-ce que c'est très différent ? On le sait, c'est forcément assez différent de la façon d'enseigner, de concevoir la recherche que c'est qu'on peut avoir en France, mais qu'est-ce que ça vous apprend ? Qu'est-ce que vous y découvrez ?
Le plaisir d'enseigner différemment, avec des jeunes qui sont avides de découvertes et qui ne sont pas enfermés dans une discipline. C'est vrai que nous parlions tout à l'heure du transdisciplinaire et que le transdisciplinaire est en œuvre notamment aux États-Unis.
Vous pensez que ça peut être que ça pourrait arriver en France ?
Je pense que les choses évoluent.
Très bien, merci Françoise Gaspard. On a pas aborder ce soir un pan important de votre recherche, celle que vous avez menée donc avec Farhad Khosrokhavar. Je l'ai dit tout à l'heure, on en parlera dans la dernière émission, mais avant cela, demain, on parlera de votre action internationale en faveur du droit des femmes. Merci et à demain, Françoise Gaspard.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Françoise Gaspard. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Christophe Papon, Yvan Turc, réalisation Vincent Deck, attaché d'émission Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.